Alle sur le livre aux Romains, cette épître a été découpée de manière différente suivant les commentateurs. Nous allons la regarder en cherchant la manifestation de l'Évangile. Dans le début de l'épître, jusqu'au verset 15 du chapitre 1er, Paul est conduit à introduire l'Évangile. Dans les versets 16 à 17, il nous dit un petit peu ce qu'est l'Évangile, l'Évangile expliqué. Nous lisons ces deux versets là. L'Évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, à tous, aux Juifs premièrement et aux Grecs. Puis, la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Voilà donc quelque chose de fondamental. Du verset 18 de ce chapitre jusqu'au verset 20 du chapitre 3, nous avons une indication sur le fait que tout le monde a besoin de l'Évangile. C'est l'Évangile nécessaire pour tous. À la fin du chapitre 3, du verset 21 jusqu'au verset 31, c'est le fondement et le contenu de l'Évangile, avec en particulier ce verset « Dieu est juste », verset 26, justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Alors, puisque tous sont concernés ici, en particulier juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, on peut se demander s'il y a une relation avec l'Ancien Testament et si l'ensemble est cohérent. Alors, le chapitre 4 nous donne une information sur l'harmonie de l'Évangile avec l'Ancien Testament. Au chapitre 5, nous entrons dans les bienfaits de l'Évangile jusqu'au verset 11. Et puis, un point clé est expliqué dans la fin de ce même chapitre, l'efficacité de l'obéissance de Christ pour répondre à la désobéissance d'Adam. Quelque chose de fondamental qui ouvre effectivement une vraie liberté. Alors, comment vivre? Eh bien, le chapitre 6 ouvre sur la possibilité d'une marche saine dans la foi. Ensuite, on peut se poser des questions, puisqu'il y a des juifs et des non-juifs, sur ce qu'il faut faire de la loi. Alors, le chapitre 7 introduit justement la place de la loi dans la vie du chrétien. Puis, il n'y a pas de capacité intellectuelle pour vivre les choses de Dieu, alors le chapitre 8 nous donne une clé, la nécessité et la puissance de l'esprit pour vivre une vie sainte, complétant ainsi en particulier le sujet du chapitre 6. Alors Israël, là-dedans, eh bien les chapitres 9, 10 et 11 nous présentent le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Se termine alors une partie appelée souvent la partie doctrinale de l'Épître aux Romains. Et à partir du chapitre 12, nous entrons en quelque sorte dans l'Évangile vécu. Avec les deux premiers versets du chapitre 12, c'est l'Évangile vécu dans une consécration personnelle. Ensuite, jusqu'au verset 8, l'Évangile vécu dans le service avec l'exercice des dons. Ensuite, du verset 9 jusqu'au verset 21, c'est l'Évangile vécu en relation avec la société. Au début du chapitre 13, jusqu'au verset 7 en tout cas, c'est l'évangile vécu en relation avec l'autorité ou avec le gouvernement. Ensuite, du verset 8 à la fin du chapitre, c'est l'évangile vécu en se projetant dans l'avenir, c'est-à-dire en embrassant ce qui nous attend. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et le chapitre 14, donc, sur lequel nous allons nous arrêter, commence une portion qu'on arrête quelquefois au verset 7 du chapitre 15 et que nous avons poursuivi ici jusqu'au verset 13 du chapitre 15. C'est cette fois l'évangile vécu dans les relations chrétiennes avec des personnes qui peuvent venir de tout milieu. Et l'exemple du Seigneur Jésus dans le chapitre 15 en particulier montre qu'il est venu pour les Juifs, mais que son œuvre et ce qu'il a opéré s'étend à tous les hommes. Donc une ouverture pour nous dans la liberté, en pensant à ceux qui viennent dans la sphère chrétienne de différentes sources, les musulmans par exemple. Et le verset 13 apparaît comme une sorte de conclusion de cet ensemble-là, présentant le Dieu de l'espérance et puis la puissance de l'Esprit-Saint pour réaliser ses enseignements pratiques. Dans la suite, c'est l'Évangile en relation avec les projets de Paul, fin du chapitre 15, et dans le chapitre 16, alors c'est l'Évangile avec une véritable reconnaissance pour ce que Dieu a conduit les autres à produire. Le chapitre 14 se découpe en particulier avec d'abord une liberté individuelle, ensuite une liberté en relation jusqu'au verset 7, ensuite une liberté en relation avec la responsabilité jusqu'au verset 16. Ensuite, c'est une liberté en relation avec la communion fraternelle. Et ensuite, l'exemple de Christ au début du chapitre 15. Donc, nous faisons la lecture ici jusqu'au verset 16, comprenant les deux premiers points.
Donc, nous lisons Romains au chapitre 14, versets 1 à 16. Je lis dans la nouvelle traduction, comme ça vous pouvez comparer avec votre traduction préférée. Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le, non pas pour décider sur des points sujets à discussion. L'un croit pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible, mange des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? C'est pour son propre maître qu'il se tient debout ou qu'il tombe. Et il sera maintenu debout, car le Seigneur est puissant pour le maintenir debout. L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui fait attention au jour, le fait à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui s'abstient de manger, s'abstient à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, c'est en ayant égard au Seigneur, et si nous mourons, c'est en ayant égard au Seigneur. Donc, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. En effet, c'est pour ceci que Christ est mort et a repris vie. C'est afin d'être Seigneur à la fois sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou encore toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit en effet, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou se ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme étant Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc pas plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Je sais, et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus, que rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Car si à cause d'un aliment ton fer est peiné, tu ne marches plus selon l'amour. Par ton aliment, ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. Alors, je voudrais lire aussi les questions qu'on a données dans la lettre d'invitation, juste pour mémoire. Ces questions ne sont pas exclusives et on n'est pas obligé de les traiter toutes, mais on peut les lire pour se les rappeler. Comment accueillir, selon Dieu, un chrétien faible dans la foi ? Pour vivre en heureuse communion, quelles divergences sont acceptables ou non ? Que faire pour ne plus juger, voire mépriser, un frère ou une sœur sur certaines de ses pratiques ou convictions ? À propos des jours, quelle importance accorder au dimanche ? Le tribunal de Dieu concerne-t-il le chrétien ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? En quoi cela nous enseigne-t-il pour nos rapports entre chrétiens ? La conscience doit être éduquée. Chaque chrétien doit-il suivre la sienne à son niveau de conviction dans la foi ? Juste quelque chose de pratique que j'ai à cœur. On a parlé tout à l'heure dans la prière de la liberté de l'esprit. Et voilà, j'invite vraiment à tous les frères, même ceux qui sont hors micro, de s'avancer, ou même, pourquoi pas, de parler hors micro, il n'y a pas de souci. Et s'il y a aussi des questions, pourquoi pas faire passer un petit papier avec des questions à l'un ou à l'autre, on peut lire la question. C'est une façon peut-être de que ces échanges soient les plus fructueux possibles. On peut aussi faire passer cette petite question à l'intervalle de midi.
Alors, il y a des questions qui se sont posées. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche bien ? Pour venir ici, ce matin, j'ai fait le plein de gasoil. Et avec le plein de gasoil, j'ai pu arriver jusque-là. Alors, on pourrait se dire, comment est-ce que je vais faire pour vivre avec des gens différents ? On va essayer de mettre des bonnes règles. Mais ça ne me fera pas avancer. Il faut remplir l'intérieur de ma vie de quelque chose qui va faire que je vais pouvoir être quelqu'un qui accueille, par exemple. Donc si on cherche des règles, on n'y arrivera pas. Parce que la preuve, c'est que on n'y arrive pas bien. Et c'est pour ça que toute cette partie de l'épître commence par deux versets essentiels pour qu'on puisse vivre ce qu'on a dans notre chapitre, c'est les deux premiers versets du chapitre 12. Alors, Jacques a expliqué comment se déroule la démonstration de l'apôtre Paul. Mais je voudrais relire les deux premiers versets du chapitre 12 parce qu'il dit « Je vous exhorte donc ». Ça commence comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une déclaration, il y a eu une découverte dans cette lettre. Frères, par les compassions de Dieu. Et le chapitre précédent, la démonstration s'arrête par une adoration. Hein, que, aux profondeurs des richesses, tout est merveilleux. Où est merveilleux ? Ben, dans le cœur de Dieu. Tout le monde a été rassemblé, constaté pécheur, mais rassemblé dans l'amour de Dieu. Et on voit que présenter vos corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire tout notre être, on offre à Dieu, qui est saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Il y a une petite règle là. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ah oui, c'est vrai, le siècle, c'est le monde, c'est égoïste, on écrase les autres, etc. On comprend bien que si on se conforme au siècle, ce qu'on a lu, là, ça marchera pas bien. Même si on prend des bonnes règles. Mais, voilà, la clé, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. et dans les chapitres qui vont suivre, le développement de cette volonté de Dieu nous est révélé. Alors, c'est quoi, entre autres? Eh bien, de s'accueillir les uns les autres. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses. C'est qu'on est complémentaires les uns les autres, puisqu'on forme chacun, on est membre du corps de Christ. Comment se comporter avec les gens qui sont autour de nous, dans le monde, les autorités, etc. La volonté de Dieu a donné des règles, et on les a dans ces différents chapitres. Mais on comprend que si notre être intérieur n'est pas renouvelé par l'action de l'Esprit de Dieu, impossible de vivre ce qu'on a lu aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, le gazole qui m'a permis de faire mes 120 km ce matin, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matin, quand je me lève, j'offre ma vie à Dieu. Si je suis pas dans cet état d'esprit, impossible de vivre, même avec des bonnes règles, ce qu'on a lu aujourd'hui. Alors ça, c'est la première chose, c'est ce renouvellement. C'est-à-dire que notre être intérieur est renouvelé. Deuxième chose, on a dans le chapitre 13, une chose assez essentielle, c'est écrit « L'amour donc est la somme de la loi ou le tout de la loi ». Donc, ça ne peut fonctionner que si tout est une base d'amour. Mais je peux aimer si moi-même je suis conscient d'être aimé d'un amour extraordinaire par l'amour de Dieu. Donc si je suis absolument imprégné chaque jour, chaque matin commençant ma journée, de cet amour extraordinaire, de cette grâce de Dieu, alors je vais pouvoir avoir quelque chose, une dynamique d'amour dans ma vie. Troisième chose, juste avant le texte qu'on a lu, il est dit « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. » Revêtir, c'est-à-dire ce qu'on voit de l'extérieur. Mais en fait, l'évangile qui a été annoncé dans cet épître, c'est quoi? C'est une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on découvre que cette personne du Seigneur Jésus-Christ vient habiter en moi. Mes voisins, mes frères et sœurs, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient cette personne qui vit en moi? Alors, il est dit « revêtez ». Ça veut dire que mes motivations vont avoir un impact dans ce qui est vu de moi. Et c'est le Seigneur Jésus. Alors si c'est ça, alors on va pouvoir vivre ce qu'on a dans ce chapitre. Sinon, ça fonctionne pas. Donc il me semblait nécessaire d'avoir ce préalable. On ne peut vraiment vivre ce qui est selon la volonté de Dieu dans nos relations les uns avec les autres, parce que Dieu nous a, si nous sommes différents au départ, nous continuons à être différents. Et il n'y a pas un gommage des différences, non. Nous sommes toujours différents. C'est ça qui est difficile de vivre quand on est différent. Mais si on vit ça avec cet renouvellement de notre intérieur, alors ces différences vont devenir quoi? Une richesse pour chacun. Et on va tous grandir grâce à nos différences.
Quelqu'un qui domine, si on peut dire. Tout le long de ces 16 versets, il est question du Seigneur. Nous faisons quelque chose à cause du Seigneur. C'est le Seigneur qui tient debout. C'est au Seigneur que nous rendrons compte. Et dans un sens, aussi pour que nous puissions vivre ce qui nous est appris, ce qui nous est enseigné dans ce chapitre, eh bien, il faut aussi que dans ma vie, le Seigneur Jésus soit le Seigneur. Et que ma confiance, à tout moment, soit dans le Seigneur. On aura certainement l'occasion de, en lisant un peu tout ces, en approfondissant un peu ce chapitre, de voir que si l'apôtre Paul nous enseigne que si vraiment le Seigneur est Seigneur, alors j'ai confiance dans le Seigneur pour qu'il agisse. C'est lui qui s'occupe de mon frère. Et comme a priori que mon frère, il est réellement soumis au Seigneur, il désire plaire au Seigneur. Et pour moi, j'ai besoin aussi de vivre cela. Et dans cette harmonie, dans ce désir de chacun de vivre en ayant cette vraie soumission d'amour au Seigneur Jésus, les choses deviennent alors avec un angle un peu différent que ce que nous pourrions vivre si nous oublions que le Seigneur est Seigneur.
on peut, au début de cette étude, bien remarquer le fait qu'il est question de questions douteuses dans notre version, mais la nouvelle dit des points sujets à discussion. Alors, c'est important de bien savoir qu'il ne s'agit là pas du bien ni du mal. Le bien dans le sens absolu, c'est bien pour tout le monde. Et le mal est mal pour tout le monde. On ne peut pas... il est question de discerner par la puissance de l'esprit, par la maturité spirituelle, avoir les sens exercés pour discerner le bien et le mal. Le bien, il n'est pas question de tolérer du mal dans ce chapitre. Et il n'est pas question de désapprouver le bien. Ce sont les questions douteuses ou questions sujets à discussion. C'est très important de le remarquer, ça, d'abord. Et puis, autre chose... un frère qui n'est plus de ce monde maintenant, qui avait le Seigneur, disait, il faut laisser chaque perle dans son écrin. Alors, la parole de Dieu ne peut pas nous enseigner tout au même endroit. Ici, nous n'avons pas d'autres, nous n'avons pas tous les enseignements, nous avons un enseignement très particulier de relations fraternelles, et nous allons le voir, c'est très utile ce sujet. Mais, ça ne met pas en cause, les enseignements qu'on trouve ailleurs. D'abord, premièrement, il n'est pas question dans ce comportement des frères d'y attacher à la moindre parcelle d'efficacité pour le salut. Rien, même pas une dose infinitésimale, c'est quelque chose qui n'est absolument indépendant du salut. Et ça, nous avons l'enseignement dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre parle, ne marche pas ses mots, et parle avec vigueur aux Galates insensés qui vous ont ensorcelé. Comment reviendrez-vous, après avoir été libéré, aux misérables éléments dont vous avez été libéré? Ça, c'est une chose. D'autre part, il n'est pas question là de la vie de l'Assemblée. D'ailleurs, ce n'est pas le propos, en principe, de toutes l'épître aux Romains, à part le chapitre 12. Mais ce n'est pas le propos principal. Il n'y a en tout cas pas dans ce chapitre. Il n'est pas question, là, de la vie d'Assemblée, comme on le trouve dans l'épître aux Corinthiens. Chaque perle est dans son écrin. Voilà. Là, il s'agit d'une relation, donc on va le voir, de contact de frère à frère, de sœur à sœur, d'une manière plutôt individuelle. Mais il n'est pas question d'autre chose. C'est important qu'on le sache pour bien ne pas faire d'amalgame avec d'autres enseignements. J'espère que je me fais comprendre. Quand il est question de réception, il faut nous recevoir, enfin nos frères, recevoir dans notre cœur. Peut-être même dans nos foyers, même sûrement. Mais il n'est pas question, là, de l'Assemblée. Il y a encore moins de la table du Seigneur. Voilà, alors, nous restons bien dans le cadre de ce sujet, qui a une grosse importance par ailleurs. Voilà.
Le bien et le mal, c'est théorique, parce que la discussion, dans la nouvelle version, il est question de sujet à discussion. La discussion, elle a lieu précisément parce que pour moi, c'est bien... Et ce que tu fais, c'est mal, alors que c'est l'inverse. Donc, c'est purement intellectuel. Ça, la discussion, elle est là. Et justement, c'est pour ça que ce passage va être important pour nous, parce que moi, je vois mon frère qui fait quelque chose et je considère que c'est mal. Et comment je vais faire? Donc, c'est...
un frère a un comportement et c'est bien. L'autre frère a un comportement inverse, mais c'est encore bien. Ça nous montre bien qu'il ne s'agit pas là, devant Dieu, de ce que Dieu appelle bien et de ce qu'appelle mal. Voilà pourquoi ce chapitre est utile. Alors, je pense qu'on peut le dire d'emblée, nous n'avons ni à mépriser notre frère, ni à le juger. Et puis, nous allons voir en pratique ce que cela comporte. Il y a une certaine délicatesse de cœur, et comme a dit peut-être Jean-Luc, quand il y a l'amour pour le Seigneur, eh bien, tout se simplifie.
exemple qui permet peut-être de clarifier l'échange là, c'est que c'est celui qui est donné dans ce chapitre 14, les jours, le sabbat. Le frère juif n'envisageait pas ce jour-là. Aujourd'hui, il n'envisagerait pas d'appuyer sur un bouton électrique pour allumer la lumière. Alors, à l'époque, il faisait pas de feu, il cuisinait pas, il marchait le chemin d'un sabbat, c'est un peu moins d'un kilomètre, je crois. Enfin, il y avait une limite extrême. Puis à côté de ça, il y avait le frère d'origine grecque, romaine, qui lui, il vivait normalement ce jour-là. C'était un jour comme les autres, c'est dit ici. Et ils se scandalisaient franchement l'un l'autre sur des choses qu'ils estimaient fondamentales. Alors, c'est sûr, bien et mal selon l'écriture, mais ça va très loin.
Peut-être qu'il faudrait plutôt dire, non pas bien et mal, mais le péché. Et donc la parole de Dieu dénonce le péché, il ne s'agit pas d'accepter le péché. Mais par contre, il s'agit aussi de souvent dans nos convictions personnelles, devant le Seigneur, on pense qu'il est juste d'agir d'une certaine manière. Notre tendance personnelle, c'est ce que je pense devrait devenir la règle des autres. On aura peut-être l'occasion de voir d'autres passages dans les évangiles où le Seigneur nous enseigne sur ça. Quand il nous dit, par exemple, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mais il ne veut pas dire qu'il faut couper la main de tout le monde. Et puis il y a une autre chose encore. Bien sûr, chaque perle dans son trou, dans son écrin. J'étais à Bordeaux quand le frère, c'est Alfred Lahut qui avait dit ça, et c'était à propos de l'épître de Pierre. On lui avait posé une question pour comparer quelque chose entre l'épître, un verset de l'épître de Pierre, une autre dans une autre épître, et Alfred Lahut avait répondu chaque perle dans son écrin. Et ce que j'ai compris de ce qu'il avait dit là, c'est que il faut vraiment faire attention quand on étudie la Bible, la parole de Dieu, de recevoir l'enseignement particulier de chaque épître. De telle sorte que l'épître aux Romains, on l'a vu, a un enseignement. Et en particulier, j'aimerais peut-être souligner une chose. Tout à l'heure, Jacques a parlé de l'évangile. Mais définir un peu ce qu'est l'évangile, c'est pas simplement annoncer le salut. L'apôtre Paul, au début de cette épître, il dit aux Romains, qui étaient une assemblée, à des chrétiens, il leur dit « J'aimerais venir vous voir pour vous annoncer l'évangile ». Qu'est-ce qu'il va leur annoncer? Il va leur annoncer non pas le salut, mais les effets de l'évangile dans leur vie, et c'est ce qu'on a vu dans le plan que tu as donné. Et alors, dans notre chapitre, il s'agit des relations entre enfants de Dieu. Il me semble, mais on y reviendra, que c'est dans le cadre de ce que l'on appelle le royaume de Dieu. C'est un aspect de la vie chrétienne et de ce que nous sommes quand nous avons cru au Seigneur Jésus, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, dans un sens, nous sommes sous l'autorité du Seigneur et c'est l'aspect du royaume de Dieu. Quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons le même Père et c'est l'aspect de la famille de Dieu. Et quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes membres du corps de Christ et c'est l'aspect de l'Église. Et ce sont trois aspects complémentaires de l'enseignement de la parole de Dieu et qui parle de la position du chrétien une fois qu'il est accru. Mais ces trois aspects ne sont pas compartimentés de telle sorte qu'il y a un aspect qui ne concerne pas l'autre. Nous sommes chrétiens tous les jours. Nous sommes enfants de Dieu tous les jours. Nous sommes membres du corps de Christ tous les jours. La vie de l'Assemblée, c'est pas simplement les réunions. Les réunions, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais si entre les réunions, il n'y a pas d'harmonie, nous ne savons pas nous recevoir, nous méprisons l'un, il y a des jugements, etc., les réunions, elles ne vont pas être... l'harmonie, la communion dans les réunions, ça ne va pas être extraordinaire. Et la seigneurie de Christ ne sera pas vécue. Donc on ne peut non plus, quand on lit ce passage, il ne faut absolument pas que nous pensions notre vie est chaque aspect est indépendant les uns des autres. C'est un ensemble, et chaque perle dans son écrin, mais ouvrons tous les écrins pour comprendre ce que Dieu veut nous apprendre. Et dans un sens, la perle qui est dans l'écrin 1 mettra en relief aussi la perle qui est dans l'écran 2. Et quand nous aurons regardé l'ensemble, notre compréhension de ce que Dieu attend de nous sera certainement beaucoup plus grande.
Il y a donc bien, dès le verset premier, une pensée très importante dans le sujet qui est devant nous, le bien de l'autre et le profit de l'autre. Celui qui est faible en foi, c'est celui, on le voit dans le contexte, qui se pose un certain nombre de questions, qui a des scrupules, l'un en a, peut-être sur certains points pendant un certain temps, puis il lit la parole de Dieu, il vit avec le Seigneur, et cette personne-là apprend à être plus libre sur certains points, elle a moins de scrupules dans certains domaines, mais elle découvre en même temps d'autres précisions de la parole de Dieu, et elle entre dans d'autres scrupules sur d'autres points. Alors, le verset premier met bien l'accent sur quelque chose d'essentiel, « Je respecte l'autre où il en est. Je ne viens pas pour détruire ce qu'il a acquis jusque-là, mais je le reçois en pensant à le faire avancer. Et par conséquent, tel qu'il est. Mon but n'est pas de dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Mon but est de dire « ah, il en est là, tiens, mais ici, il en est un peu plus loin que moi, j'apprends quelque chose de lui. Là, je peux peut-être l'aider, alors je vais chercher à l'aider, mais je le reçois. » Et il y a quelque chose d'important sur quoi nous nous arrêterons un peu plus tard, qu'on retrouve en 1 Corinthiens 8, comme le frère pour lequel Christ est mort, c'est-à-dire qu'il y a là une présence divine, un acquis divin devant lequel je me fais petit. Donc, avec ce frère-là, ou cette sœur, bien entendu, pour les choses qui sont délicates, ou sur lesquelles il a des scrupules plus ou moins bien fondés, je ne discuterai pas. Je vais nourrir sa foi, non pas l'ébranler, mais le servir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Recevez-le peut aussi se traduire accueillez-le. Et le terme grec renvoie, paraît-il, à une acceptation personnelle et volontaire des uns des autres. Donc, c'est vraiment une acceptation de l'autre dans ses différences, ses opinions secondaires qu'il peut avoir ou ses pratiques secondaires qu'il peut avoir. C'est vraiment un accueil. Quand j'accueille quelqu'un, j'ai le sourire, je suis bienveillant dans mon attitude, c'est ça. Hein, c'est pas simplement je supporte cette différence, mais vraiment une attitude positive. J'aimerais qu'on définisse ce que c'est qu'un frère faible dans la foi au début. C'est peut-être un terme un petit peu difficile. Il me semble que c'est quelqu'un qui a une conscience exagérée, même si ça marche et selon Dieu. Est-ce qu'on peut définir ce mot foi, puisqu'il a plusieurs acceptations? Et autre question annexe, est-ce qu'on peut pas être tous des frères faibles dans la foi, dans certains domaines? Dire pour moi, c'est quelque chose, ça j'accepte mal de le voir chez les autres. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des frères faibles dans la foi pour tout et des frères forts pour tout?
Je pense que le faible dans la foi, c'est une question de discernement en ce qui est essentiel et en ce qui ne l'est pas. Je voudrais peut-être, sans vouloir m'écarter du sujet qui est placé devant nous, rappeler un certain nombre de faits pour montrer l'extraordinaire actualité de ce que nous avons lu. Alors je vais essayer d'être bref. Et quand Paul écrit à ses Romains, il est bien informé de la situation. Et il sait qu'il y a des dissensions, qu'il y a des rejets, qu'il y a des problèmes. Rome, à l'époque, est une ville extraordinairement cosmopolite. Si je vous demandais, par exemple, quelle est la principale religion pratiquée à Rome à cette époque-là, eh bien, vous seriez peut-être surpris de savoir que c'est le mithradisme.
c'est-à-dire la religion consacrée à Mitra, le dieu soleil. Ce n'est pas la vieille religiosité gréco-romaine. Ça reste un substrat, on maintient les formes, on n'y croit pas. On n'y croit pratiquement pas. Il y a une très forte communauté juive, très importante. Parmi ces gens, ces anciens adeptes du culte à Mitra, qui est un culte solaire, un culte à salut, à la différence de la vieille religion gréco-romaine, il y en a un certain nombre qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, mais qui ont gardé encore, par exemple, un certain nombre d'aspects de leur religion. Les juifs, judaïsants, on le sait, acte 15, étaient très attachés également au judaïsme. En quoi cette situation est-elle extraordinaire d'actualité ? Nous vivons une période singulière. Depuis, on va dire, je dirais 1989, la chute du mur de Berlin, nous avons dans notre Occident chrétien un brassage extraordinaire. À titre d'exemple, je connais un petit peu la situation à Paris, je vais vous l'évoquer très rapidement, il y a plus de 200 églises ethniques africaines. Il y a 3 églises roumaines orthodoxes, depuis très peu, depuis quelques années. Une vingtaine d'églises chinoises. Tous ces gens-là pratiquent leur christianisme à leur façon, avec leurs particularismes locaux, culturels, et ne se rencontrent pas trop, ou s'ils se rencontrent avec d'autres chrétiens, cela pose des problèmes. Alors, Paris serait la Rome, au temps de l'apôtre Paul. Et voyez les problèmes que cela pose. Chacun est attaché à son credo, avec opiniâtreté, avec aussi beaucoup de bonnes dispositions, chacun pense avoir raison. Et il faut que tous ces gens-là vivent ensemble leur foi, parce que le christianisme, c'est l'universalité. Il y a eu le particularisme avec le peuple juif, le peuple de l'Alliance, mais dans ce particularisme devait sortir l'universalité. Et toute la difficulté, et elle est encore de nos jours tout à fait, ça dépasse un peu le cadre de cette salle, mais peu importe, je le dis quand même, toute la difficulté est de se comprendre, parce qu'on ne parle pas le même langage, de s'accepter avec ses propres particularismes, ses propres différences. Et ce qu'il y a de merveilleux dans le christianisme, c'est que la chose est possible. Et c'est le thème même de ce chapitre 14, de cet épître aux Romains. Alors, à notre niveau, évidemment, il en est un petit peu différemment, mais moi je viens d'une assemblée qui s'appelait Aulnay-sous-Bois, qui était dans le 93, donc vous voyez, avec une population aussi très différente et très hétérogène, très cosmopolite, et on a eu un certain nombre de familles africaines qui nous ont posé un problème au niveau de l'intégration. Il a bien fallu faire avec. Alors, les faibles, les forts, bon, chacun avait ses habitudes et ses coutumes, ils n'avaient manifestement pas tout à fait la même façon que nous, n'est-ce pas, de faire le culte, par exemple, de célébrer le culte. Il a fallu composer, il a fallu établir non pas des compromis, mais disons, s'écouter, s'entendre, expliquer les choses, et je crois que là, c'est une très bonne disposition. Je pense que nous ne devrions pas vivre dans notre petit monde avec notre credo personnel, nos idées personnelles, nos préjugés, nos présupposés, et puis juger, hein, le mot revient très souvent dans ce chapitre, juger les uns les autres sans les connaître. Alors voilà, simplement resituer ça dans ce contexte, et je trouve que c'est un très beau sujet qui correspond tout à fait à notre époque.
Est-ce que la réponse à la question, c'est pas le premier verset du chapitre 15 ? Nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles. Les forts, c'est nous, et le faible, c'est l'autre. Ce qui nous conduit à lire à relativiser notre point de vue.
Je crois qu'il y a un passage qu'on peut avoir dans le cœur, c'est celui que nous voyons dans Philippiens 2, que rien ne fasse par un esprit de parti et vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. J'oserais pas dire, moi, que je suis le fort, et puis que mon frère est le faible. Non, c'est contraire à ce qui nous est dit, là. Ayons une estime mutuelle, et ce n'est pas parce qu'un frère se sent tenu d'un comportement que nous avons à le mépriser. C'est l'enseignement. À la condition que ce frère ne voit pas là quelque chose qui est lié au salut, que c'est quelque chose qui n'est indépendant du salut. Ça, on ne pourrait pas le supporter, qu'il y ait un sentiment de sécurité parce que je fais ça, donc je suis sûr d'être sauvé. Vous voyez, le danger, la limite, du moins la limite. Mais véritablement, si nous sommes humbles, eh bien, moi, je n'oserais pas me mettre du côté des forts.
En fait, souvent, on pense que le faible, c'est l'autre, parce qu'il y a le verset premier du chapitre 15. Et c'est plus confortable. Certainement, nous avons, dans la question de faible et fort, il y a une question de croissance spirituelle. Le faible, dans un sens, il a besoin de grandir dans la connaissance de la pensée de Dieu. Et celui qui est fort, dans ce passage, c'est celui qui, dans un sens, ayant, alors en dehors du côté culturel, ayant grandi dans la... ayant appris ce qui était au début de cette épître, il est libéré sur bien des choses quant à la vie chrétienne. Quand j'ai compris que dans la liberté qui est en Jésus, il y a des choses que j'aurais apprises. Mais d'un autre côté, quand on va voir dans la journée, devons-nous les forts porter les infirmités des faibles, c'est dans l'ensemble de l'étude qu'on a, de l'enseignement qu'on a, ce dont il est parlé juste avant, il est question de marcher dans l'amour, il est question, juste après, de l'attitude du Seigneur Jésus. Donc, nous, ça nous concerne tous, oublions le mot fort, nous devons penser à mon frère, je dois penser à mon frère pour porter avec lui, pour m'approcher de lui, pour penser toujours à aider. Et ça, c'est marcher sur les traces du Seigneur Jésus. Mais le faible a besoin de grandir dans la connaissance de la pensée de Dieu, et apprendre petit à petit dans sa vie à abandonner certaines béquilles qui lui semblaient essentielles. Et celui qui est fort, c'est peut-être quelqu'un qui, dans certains domaines de sa vie, a découvert davantage ce qu'est la liberté en Christ.
En tous les cas, ne refusons pas le mot de fort, parce qu'il y a beaucoup d'exhortations qui sont adressées aux forts. C'est celui qui doit supporter, et quand je vois qu'il y a une occasion de support, ben, la parole me met du côté des forts, précisément pour supporter. Alors tu as posé une question, Étienne, sur la définition du mot foi. Bon, une réponse simple, tu aurais pu la donner. La foi, c'est d'abord ce qui sauve, premier sens, on le trouve au chapitre 3. Il est question d'être sauvé par la foi en son sens, verset 25. Cette foi qui est dans notre cœur devient une foi active. Chaque jour dans la vie, on fait confiance à Dieu. C'est le sens qu'on trouve, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, quand il est dit que le juste vivra de foi, avec toutes les belles les beaux exemples que nous avons en Hébreux au chapitre 11. Et puis alors, il y a un troisième sens. Ma foi... J'ai cru Dieu pour mon salut, mais je crois Dieu chaque fois qu'il parle. Et alors, il y a toute la richesse de la révélation, et c'est ce qu'on appelle, la foi qui a été une fois enseignée aux saints. On trouve l'expression dans l'épître de Jude, tout à fait au début. C'est l'ensemble de ce que nous avons reçu de Dieu. C'est pas quelque chose qui meuble notre intelligence, c'est quelque chose que nous croyons. Et alors, on rejoint tout à fait le sens de ce chapitre 14. J'ai cru que j'étais justifié par la foi, et non par des œuvres, et non par l'obéissance à des règles. Et alors, être fort, c'est justement que cette foi, rentre dans la mécanique de chaque jour, pour me faire pleinement confiance à Dieu, et pour pas faire demi-tour, après avoir cru, après savoir que je suis sauvé uniquement par la foi, pour ne pas en revenir à des règles pour moi-même et quelquefois pour les autres.
La réponse à la question de qui est faible, je crois que elle se pose pas.
elle se pose pas, parce que sinon il faut pas lire la lettre. C'est à nous, et nous sommes tous des forts, puisque nous sommes arrivés à ce stade de la lecture, et quant à celui qui est faible en foi, recevez-le, début du chapitre 14, et nous devons, nous, les forts, porter les infirmités des faibles, chapitre 15. Arrivés à ce stade de la lecture, et quand Dieu nous donne la Bible, il nous la donne pour que nous la vivions, nous sommes des forts. Nous sommes des forts pourquoi ? Parce que nous sommes devenus, par la puissance de l'évangile de Dieu, des gens libres, des gens justifiés, libérés du péché, affranchis de la loi, et puis des gens qui ont, on lit ça dans le chapitre 8, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui n'ont pas de crainte, et des gens qui jouissent de leur liberté, qui sont remplis. Et on revient à ce que Philippe a dit, et je suis frappé que le début de ce chapitre, on a peut-être pris l'habitude de vivre notre vie de chrétien sur la défensive, parce que on est dans un monde qui est mauvais, et il faut faire attention, parce que même sur le plan religieux, il y a les choses les plus belles comme les choses les pires, et donc il faut faire attention. On a été justement enseigné sur la séparation du mal, mais ici, on n'est pas sur la défensive. Le chapitre 8 nous dit, mais vous n'êtes pas dans la crainte, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc le contraire de la liberté, pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et puis, il est question un peu plus loin de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Voilà ce que nous vivons, et voilà où on en est maintenant dans ce chapitre. Il s'agit de s'approprier ça, et on arrive dans ce chapitre. Celui qui est faible en foi, ne discutez pas avec lui de ses problèmes de discussion, recevez-le. Voilà, c'est une démarche qui est sans peur, non pas naïve, mais une démarche qui est sans peur, parce que je suis rempli, et je vais recevoir ce frère qui est autre, qui est différent, et on va ensemble vivre. Doré, merci.
Convictions qui sont liées à un certain nombre de choses apprises dans la société ou à un cadre de vie au sein de la famille. Par exemple, le verset 2 nous dit « L'un croit pouvoir manger toute chose, l'autre qui est faible mange des herbes ». Effectivement, on trouve des personnes qui refusent de manger de la viande, par exemple. Ça ne les empêche pas d'être chrétiens. Hein. Par contre, on va faire une petite différence ici pour voir le faible et le fort. Par exemple, dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, au verset 25, nous lisons, c'est un enseignement que Dieu nous donne, « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie ». Par exemple, dans le chapitre 4 de la première épître à Timothée, nous lisons et le début du chapitre parle même d'un enseignement de démons, c'est la fin du verset premier. Et au verset 3, « Défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. » Donc, vous voyez, il y a des chrétiens qui lisent ces passages-là. Ils les lisent, ils reçoivent la parole de Dieu. Ils sont libres de manger et des légumes et de la viande. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver convaincus qu'il ne faut manger que des légumes à cause de la nourriture des bêtes aujourd'hui. Bon, on en entend parler dans la société couramment. Hein. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, parler de ce que dit la parole de Dieu et la foi. On a parlé de la foi, eh bien, pour moi, un caractère de la foi, effectivement, et Élie l'a bien dit, je lis la parole de Dieu, je trouve une indication de Dieu, je la crois. Et à partir du moment où je la trouve, je suis persuadé que Dieu a raison, et par conséquent, je vis ce que Dieu me dit. Pour moi, ça, c'est la vraie règle. Ce qu'on construit dans une société parallèlement, ou ce dont on se convainc personnellement, hein, à cause d'études particulières peut-être, hein, eh bien, ça passe tout à fait au second plan, ce que Dieu me dit, c'est vrai, c'est utile, c'est ce qui correspond à la vraie vie chrétienne. Mais si l'autre en est encore à sa conviction de végétarien, eh bien, je vais en tout cas m'assurer que ça n'est pas un principe, parce qu'alors, on toucherait à l'enseignement de démons, et ça c'est grave. Donc je vais l'aider sur ce plan-là. Et si je suis persuadé avec lui que non, c'est pas, ça ne touche pas à ce domaine-là, eh bien voilà, j'aurai liberté avec lui, il mangera pas de viande, hein, et moi je mangerai de la viande, et nous nous supporterons l'un l'autre, vivant ensemble. Alors voyez ensuite le verset 3, eh bien, celui qui mange ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas, il le laisse dans sa conviction présente, et celui qui ne mange pas ne doit pas essayer de détourner l'autre non plus de sa conviction, mais il doit le respecter. Sinon, on arrive à ce qu'on trouve un peu plus loin, ce qui peut aller jusqu'au mépris. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'apôtre prend ces deux exemples, celui de la nourriture et celui du jour, pour expliquer un petit peu le contenu de ce premier verset et son incidence dans la vie pratique.
Donc là, le verset dit que celui qui ne mange pas, c'est celui qui est faible. Mais pour les jours, est-ce que vous faites le même raisonnement? Parce que pour les jours, le verset 6, là, le verset 5, la parole ne dit pas que qui c'est qui est faible et qui c'est qui est fort. Et là, pour le manger, vous avez trouvé donc deux versets qui nous montrent qu'on peut manger de tout. Est-ce qu'il y a des versets sur les jours égaux ou des jours différents? Je pense au dimanche en particulier.
Eh bien, il existe des personnes sauvées, chrétiennes, qui sont convaincues que le sabbat n'a jamais été enlevé de la parole de Dieu et qu'il faut aujourd'hui respecter le sabbat. J'ai l'occasion chaque année de visiter près de Dax, à Rion-les-Landes exactement, une personne adventiste qui, parallèlement d'ailleurs, est très inquiète au sujet du salut même, puisqu'elle a peur de pécher contre le Saint-Esprit. Donc il y a là un enseignement qui la gêne, qui la trouble. On lit ensemble la parole de Dieu. Et dans sa version, je lui dis, bon, vous êtes convaincu de ceci. Eh bien, nous allons écouter Dieu ensemble. Prenez votre Bible, lisez tel verset. Elle lit et elle me dit, tiens, c'est bizarre. Je dis, bon, alors maintenant, vous allez lire celui-ci. Elle le lit, et elle me dit quand même, si Dieu dit ça. Et puis la voilà un petit peu libérée, parce que mon souci, c'est ensuite de la libérer de son inquiétude au sujet du salut. Et puis, je l'appelle, et de nouveau, elle est retombée dans l'ornière. Alors, Le vrai problème, là, justement, tu le touches, Jean, en citant le verset 6. C'est que ce qui compte pour elle, et la vérité, c'est l'enseignement qu'elle a reçu dans son milieu. Si bien que j'ai entendu, par exemple, ceci, quand même. Avec tout ce que vous trouvez dans la parole de Dieu, tous les versets que vous indiquez, que c'est dommage que vous ne veniez pas à la vérité. Et la vérité, c'est l'adventisme pour elle. Elle est donc prise par son cadre, et finalement, ce milieu compte plus pour elle que la personne du Seigneur et la parole de Dieu. Et ça, c'est difficile à gagner. Et la clé, au verset 6, c'est bien ça, y avoir égard à cause du Seigneur. Vivre les choses à cause du Seigneur, ce que nous trouvons dans les versets suivants. D'où l'importance de ce qui a été cité au début, hein, l'Évangile, c'est une personne. Et si on met de côté cette réalité fondamentale, eh bien voyez, on peut savoir tout un tas de choses, hein, et vivre malheureux et inquiet. Donc, là, le jour du Seigneur occupe quand même une importance particulière. C'est un jour de victoire, c'est le jour de la résurrection. On trouve dans l'Évangile selon Jean et dans le livre des Actes, la fraction du pain ayant lieu ce jour-là. Donc, c'est un jour qui correspond bien à ce qui suit la victoire du Seigneur Jésus. Donc, le jour du souvenir pour le chrétien, c'est justement le jour qui est marqué par cette victoire et qui apporte un véritable changement de vie, ayant pour source la victoire remportée à la croix. Et le sabbat, le Seigneur Jésus en parle, Seigneur du sabbat, parce que quand on suit scrupuleusement le sabbat, il y a tout un tas de choses qui ne peuvent plus être vécues. Hein. Manger de tout ce qui se vend à la boucherie. Cette pauvre dame me dit, oh, ici, dans la région, ils mangent du foie gras, ils mangent des canards gras, ils mangent du porc, mais c'est impur, on ne peut pas manger ces choses-là. Et voilà. Vous voyez que au sabbat se trouve lié tout un tas de choses, la croix et l'enseignement du Nouveau Testament nous libèrent de ces choses-là, mais si on se raccroche à ce qui est du domaine juif, on raccroche en même temps des choses qui nous privent de liberté, or on est dans un chapitre et pour une étude qui nous parle de liberté, la liberté selon Dieu.
Tu as donc fait une expérience un peu décevante, puisque tu t'es fatigué pour bien convaincre cette dame que les choses étaient ainsi, avec la parole, et puis tu as cru que ça allait être, ça a germé dans son cœur et sa conscience, et puis voilà, elle revient. Alors, c'est la démonstration du fait que nous avons, nous, à présenter la vérité aussi fidèlement que possible d'après la parole, et puis c'est fini. Dieu le, on dit pour les amis de Job, Dieu le fera céder et non pas l'homme. C'est, on laisse là le travail se faire par la prière, la puissance de la parole a été présentée, eh bien, est-ce que nous avons le droit d'aller plus loin? Parce que vous voyez, dans le chapitre, verset 6, il est dit, celui qui, pour le jour, verset 5, estime un jour plus que l'autre, etc. Et c'est eu égard au Seigneur. Eh bien, nous ne voyons pas qu'il soit critiqué par le Seigneur. C'est fait de cœur pour lui, par amour pour lui ou par crainte. Alors, laissons les choses ainsi le confions-le aux soins du Seigneur. Que penses-tu? Est-ce que tu crois que c'est à peu près... on ne peut pas convaincre de force. Voilà.
Il n'est jamais question de convaincre de force. Justement, quand les choses deviennent délicates, j'ai pris l'habitude en ce qui me concerne, parce que j'ai été confronté à des cas où la discussion allait devenir difficile, de dire voilà. Voilà, vous me posez une question, ça m'est arrivé plusieurs fois dans différents champs, qui risque de troubler vos convictions. Si vous voulez bien, sur ce point-là, nous n'allons pas parler comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans la Bible à ce sujet-là, et vous allez écouter ce que Dieu en pense, puis vous réfléchirez personnellement, et nous en reparlerons, si vous le voulez, une autre fois. Donc, on n'a pas de pouvoir, nous, pour convaincre. Dieu seul peut le faire. L'Esprit de Dieu peut agir avec puissance. Nous, on n'a pas cette capacité. Mais on est responsable de dire ce que nous avons trouvé dans la parole de Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu agir.
Du chapitre, c'est que, justement, on est exhorté à ne pas venir pour discuter. Ne pas discuter des opinions. Et c'est la version Colombe qui traduit ça comme ça, ou ce qu'on a lu tout à l'heure dans la version Bonne Semence, pas pour décider sur des points de sujet à discussion. Ça veut dire qu'il y a un problème, et on va se rencontrer pour décider quelle est la bonne solution. Mais c'est pas du tout ça. Alors quel est le regard que l'apôtre Paul nous enseigne à avoir sur l'autre? D'abord, regarder, voir son frère ou sa sœur, de la façon suivante, Dieu l'a reçu. N'oublie pas que Dieu l'a reçu. Puis le deuxième point, est-ce que j'ai confiance dans le Seigneur, c'est une brebis du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il m'a chargé d'une mission pour le transformer, celui-là? Non, non. Le Seigneur, il dit, il sera debout, tenu debout, verset 4, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Le Seigneur agit. Et quand vous regardez dans les Épîtres, quand Paul parle aux Philippiens, quand il parle même aux Galates, mais quoique ce soit un peu différent, mais quand il parle en général à chacun, eh bien, on voit quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire, d'accord, mais qui a absolument confiance dans le Seigneur pour que le Seigneur s'occupe des autres. Il sait que le Seigneur s'occupe des autres. Et puis, il y a un autre point aussi qui nous est montré, ici, c'est que, celui-là, il fait ceci ou cela à cause du Seigneur, donc fondamentalement, dans ce qu'il croit, il est fidèle. Et ça, c'est... Nous, souvent, si quelqu'un a une opinion différente de la nôtre, nous avons comme a priori qu'il est ignorant, et à la limite, qu'il est infidèle et désobéissant. Et tout à l'heure, tu parlais de cette dame, eh bien, il fallait croire à la vérité, mais j'avais un peu oublié que c'était une sœur qui avait été enseignée par les adventistes, et tout d'un coup, j'ai cru que tu parlais de quelqu'un qui était parmi nous. Parce que souvent, par rapport à ce que l'on croit, il faut croire à la vérité. Et on a dit des énormités comme ça. Excusez-moi. On a dit ceci. L'assemblée a la vérité. C'est vrai ou faux? Vous avez entendu cette phrase? Et l'assemblée, en général, c'était les frères. Alors ça, c'est le premier truc qui est faux. L'assemblée, ce n'est pas simplement les frères. Deuxièmement, avoir la vérité, c'est faux. La vérité est en Jésus. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, et elle appartient à Dieu dans un sens, elle ne nous appartient pas. Ce qui veut dire que petit à petit, les pensées que l'on a, c'est la vérité. Puisque nous avons été enseignés comme ça. Et c'est la vérité, et on ne remet pas, il ne s'agit pas de remettre en question ce que l'on a appris, mais il s'agit d'asseoir ce que l'on a appris sur la parole de Dieu. Et peut-être qu'on s'apercevra qu'il y a des endroits... La base sur laquelle on s'appuie n'est pas très large. Et à ce moment-là, ce qu'il y a, si on pense ça, eh bien, petit à petit, c'est ce que je pense est la vérité. Et si ce que je pense est la vérité, toi qui ne penses pas comme moi, tu es dans l'erreur. Et c'est le début du conflit. Et ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne ici. Il y a un état d'esprit de soumission au Seigneur. Et la vraie soumission au Seigneur, c'est en restant aussi toujours dans un état de cœur où on est prêt à apprendre davantage du Seigneur. Si un jour je crois que je sais, ça va pas bien aller. Alors, il y a une autre chose encore, je voudrais dire. Si vous prenez le cas là du frère qui a égard au sabbat, puisque ça doit être ça à peu près, ce frère. Il a des arguments bibliques forts. C'est scripturaire, son opinion. Celui qui veut pas manger de porc ou de choses impures, il va chercher dans le Lévitique et tout ça, il va avoir des arguments. Il met les choses un peu en dehors de leur contexte, mais il a des arguments. Celui qui pense qu'il peut tout manger, il a des arguments bibliques. Il prend l'épître aux Romains, il prend l'épître aux Corinthiens, il a des super arguments bibliques. Et ils ont, l'un et l'autre, une conviction. Et l'un et l'autre, si vous l'interrogez, en vous disant, mais ton opinion là, c'est sur des points secondaires. Pour lui, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose de principal. Il a des arguments pour. Et ça, c'est faisons attention, parce que souvent, dans les risques de disputes entre frères et sœurs, on est convaincu quand même. Et si on n'est pas convaincu, c'est qu'on discute pas. Et quand on est convaincu, on a quand même intérêt à vérifier soigneusement ce que je crois par la parole de Dieu. Non pas pour imposer la parole à l'autre, mais pour que j'apprenne à mieux me soumettre, moi, à Dieu. Et pas par rapport à l'autre.
Quand Paul écrit donc à ses Romains, il y a une chose qu'il veut éviter absolument, c'est le schisme. C'est ça qui sous-tend tout le raisonnement. Il y a des gens qui ont des convictions différentes, qui sont très attachés à leurs convictions, on vient de le rappeler, La question du dimanche n'est pas une question si facile que cela. Je fais encore, excusez-moi, un petit rappel historique. Le dimanche a été institué en 321 par l'empereur Constantin. On a parlé de la conversion de l'empereur Constantin, moi je préférerais parler de la pseudo-conversion, en 321. Constantin faisait partie d'une famille qui adorait le dieu soleil. Et le jour de l'adoration du dieu soleil à Rome correspondait donc au dimanche. Voilà ce que les pasteurs adventistes vont vous dire. Donc ils vont vous dire, vous respectez le dimanche. Donc c'est extrêmement grave parce que vous vous soumettez à un décret totalement païen. C'est un point de vue. Un autre, bon, il faut savoir également que le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de résurrection, on le rappelle souvent quand le Seigneur est apparu dans la chambre haute, dans Acte 20, effectivement, quand Paul était à Troade, il est resté 7 jours sauf erreur, et c'est quand même le dimanche, le premier jour. Les pères de l'Église, d'une façon générale, ont opté pour le dimanche, le jour du Seigneur, où l'on se réunit. Mais ça n'a pas fait l'unanimité. Le sabbat a longtemps encore été adopté. Et même après le décret de Constantin en 321, 325 c'est après Nicée, qu'a fait Cantérinée, l'Église s'est rattachée à cette idée. Vous voyez, Constantin a voulu faire une sorte de compromis entre cette fameuse religion dont je parlais tout à l'heure de Mitra, qui est le dieu soleil, le dimanche, on retrouve dans l'anglais, hein, allemand, Sonntag, on retrouve tous cette idée du dimanche, nous c'est totalement différent, c'est le jour du Seigneur, ça n'a pas fait du tout l'unanimité, il y a eu débat. Et pendant très longtemps, il y a eu encore des chrétiens authentiques qui ont suivi le sabbat. Et ça, il faut le savoir, ça ne s'est pas imposé comme ça, c'est suite à des discussions et à des choses un peu complexes. Alors, j'en reviens à cette idée initiale, comment faire vivre ensemble des gens qui ont... Alors, le problème également du jeûne, il faut se mettre à la place de la situation. Ça posait un réel problème, vous aviez des gens, des chrétiens authentiques, qui ce jour-là jeûnaient, d'autres se réunissaient pour faire leur agape. Comment vivre? Comment faire? Comment s'accepter, se supporter? Alors, les deux, l'un avait tendance à mépriser, évidemment les forts ont tendance à mépriser, les faibles c'est le mépris, les autres à juger, c'est le légalisme. Et il faut qu'il n'y ait ni mépris, ni légalisme, ni esprit de jugement. Alors comment? Eh bien, patienter, attendre que les esprits évoluent, que les choses... se passe bien, sans heurts, sans conflits, sans division. On se divise souvent parce qu'on ne se comprend pas, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'a pas les mêmes concepts. Et pourtant, fondamentalement, on accepte ce qui est essentiel. Alors ça vaut peut-être la peine aussi de définir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Jusqu'où peut-on aller? Alors tout ça permet de bien donner un éclairage sur cette situation délicate, difficile, que Paul va s'efforcer, avec le secours de l'esprit bien sûr, à résoudre.
On parle beaucoup ici de ce que pense mon frère. Est-ce qu'on serait face à face dans cette question-là? Est-ce que ce chapitre parle de relations, de personnes qui s'affrontent? Mais enfin non! On est à trois, excusez-moi. Parce que mon frère... c'est celui que Dieu a reçu, fin du verset 3. On l'a dit tout à l'heure. Et puis, dans sa marche personnelle, je trouve qu'il est faible, oui, mais c'est le Seigneur qui le soutient. C'est quand même extraordinaire, vous prenez un petit enfant, s'il a une main solide qui le tient, il marche. Et dans la vie pratique des gens qu'on trouve faibles, ils ont une fidélité extraordinaire, jour après jour. C'est le Seigneur qui les tient. Alors que moi je suis si faible. Alors, ce chapitre nous invite à changer d'état d'esprit. Philippe, dans son introduction, l'a dit, et il me semble qu'on a prié aussi pour ça ce matin. On n'est plus face à face, on est ensemble devant Dieu. Je ne suis pas plus près du Seigneur et mon frère est loin, non, puisqu'il a été reçu. On est ensemble près du Seigneur, aimé par le Seigneur, et on est appelé à prendre cette dimension. Pour justement le vivre différemment.
ce que nous disons là, est-ce que ça veut dire que nos frères d'Angoulême et Saint-Cybardeau auraient pu poser la deuxième question un peu différemment, en disant, pour vivre en heureuse communion, quelles convergences sont indispensables?
De l'enseignement ici. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ceux qui s'astreignent à des pratiques et qui ont tort et qu'il nous faut supporter et puis ne pas condamner ni mépriser. Mais il y a l'autre versant de l'enseignement ici. Jacques a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, pour démontrer que il y a des, nous avons la liberté de manger de la viande. Mais au verset 28, si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de la conscience de l'autre. Et ça, c'est là l'autre côté de la chose. Nous voyons au verset 13 de notre chapitre 14, « ne jugez pas plutôt ». Ne nous jugeons pas l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement dans la conscience de mon frère. Moi, j'ai la liberté de manger de la viande, mais est-ce que je vais continuer au risque de scandaliser? Deux exemples rapides. Premièrement, quand j'étais petit, nous avions une bonne à tout faire, 24 heures sur 24. Eh bien, jamais, elles étaient catholiques, très catholiques, ces femmes qu'on a eues, eh bien, jamais nous permettions de manger de la viande le vendredi. On achetait du poisson, mais parce que nous savions que nous allions la choquer, on n'est pas parti en guerre pour lui démontrer avec la Bible que ce n'était pas la peine. Bon, un autre exemple, plus récent. Je faisais une visite à une personne âgée, isolé, et je cherchais un peu à l'égayer, je lui avais porté des photos, des photos de mes petites filles, et il y avait des photos de Noël. Elle me dit, « Ah, vous faites l'arbre de Noël ? C'est scandaleux. » Ah non, non, je lui dis, ça vous choque ? Oui, ça me choque. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous allez décider de ne plus faire d'arbre de Noël ? Voilà, la question, c'est très pratique. Il y a des sacrifices. Voilà, là, je pose le problème.
Remarquez quelque chose en lisant, en relisant ces derniers jours ce chapitre, j'ai été étonné par les versets 3 et 4. Parce que, vous voyez, la fin du verset 3, « Celui qui ne mange pas, c'est donc le faible, ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu, celui qui est fort. Hein. » Et ensuite, « Qui es-tu toi qui juge le domestique détruit ?» C'est donc le faible qui va juger le fort. Et regardez la suite. Et c'est pour son propre maître qu'il se tient debout ou qu'il tombe. Il sera maintenu debout car le Seigneur est puissant pour le maintenir debout. Il ne s'agit pas du faible, il s'agit du fort. Finalement, le fort, il prend pour le faible des risques. Il est à la limite de tomber parce qu'il prend toutes les libertés. Vous vous rendez compte? Il se permet ça, ça, ça. Mais là, il est au bord d'un précipice. Alors, on voudrait maintenant parler de nous un petit peu. Est-ce que ça m'arrive pas d'être inquiet? Parce qu'on parle de juger, etc., ça c'est le côté un petit peu, voilà, je juge, je méprise. Mais est-ce qu'au fond, ça vous arrive pas d'être inquiet pour votre frère, pour votre sœur, et je dirais, nous, parents chrétiens, pour nos enfants? Parce que on se rend compte qu'ils se permettent des choses qu'on n'aurait pas osé, et on se dit, ah là là, alors on dirait... Il faut les récupérer, il faut les empêcher d'eux, etc. Parce qu'ils vont perdre peut-être du temps, leur vie. Alors est-ce que nous savons, là, le Seigneur est puissant pour le tenir debout? Franchement, est-ce qu'on fait confiance au Seigneur pour mon frère, ma sœur, mon enfant, pour celui qui est à côté de moi, que j'aime? Est-ce que je lui fais confiance? Vraiment, est-ce que notre problème d'inquiétude intérieure peut être tout d'un coup apaisé? Il est dit un peu plus loin dans ce livre que notre Dieu est un Dieu de paix. Il veut remplir mon cœur de paix. Mais
Est-ce que je sais faire chaque jour confiance au Seigneur, pas seulement pour moi-même, mais pour mon frère que j'aime, parce qu'en fin de compte, bon, on nous a parlé des scissions, etc., et je comprends tout à fait le contexte, mais quand même si ça nous est dit aussi, est-ce que je sais faire confiance au Seigneur pour mon frère, ma sœur? Parce que ça, c'est la grande question. Parce que souvent, quand on veut régimenter tout, c'est parce qu'on voudrait pas aussi que l'autre tombe. Alors voilà des forts qui prennent des risques. Mais franchement, être dans la liberté du Seigneur, c'est prendre des risques, mais pas n'importe lesquels. C'est le risque de se mettre sous l'autorité de mon Seigneur. Quelle relation j'ai avec le Seigneur? Et être pleinement persuadé dans son esprit, c'est effectivement avoir des convictions. Mais je voudrais quand même redire une chose là. Nous avons un grand problème, c'est que nous vivons beaucoup, on croit qu'on est soumis à l'autorité du Seigneur, etc., mais avec des croyances, comme les Juifs autrefois, parce qu'on nous a appris ça, parce qu'on est dans un contexte. Alors c'est comme ça. Alors, donc on doit vivre ça, et si on dépasse, on pêche. On est souvent comme ça. Alors vraiment demander au Seigneur, quand on lit la Bible, le lire en enlevant ce filtre de notre croyance, c'est-à-dire de tout ce que j'ai accumulé comme pensée sur la Bible, sur la manière de vivre. Il ne s'agit pas là de la doctrine fondamentale, essentielle, on l'a dit et répété, mais c'est du jour au jour, le jour le jour, c'est la vie pratique. Et je crois vraiment que si on reste figé avec nos croyances, notre christianisme est un christianisme mort. Puisqu'on vit plus on vit plus aujourd'hui, mais on vit avec une croyance qui est du passé. Non, remettre chaque chose dans la présence de Dieu jour le jour. Et c'est comme ça qu'on va être libre de vivre vraiment. Alors, ayant égard au Seigneur, mais surtout, je voudrais revenir à cette question. Est-ce que nous apprenons, nous savons faire faire confiance au Seigneur?
Je crois que c'est vraiment ce qui ressort. Cette confiance au Seigneur, elle ressort à travers le verset 6, par deux fois, et pour l'un et pour l'autre, il rend grâce à Dieu. Donc c'est bien qu'il a eu confiance en Dieu et il le remercie pour ce que Dieu l'a conduit à faire. Alors la question elle est aussi, est-ce que moi je fais confiance à mes frères? Il a une vision différente, mais est-ce que j'impute le mal? Ou alors est-ce que je lui fais confiance parce qu'il le fait en rendant grâce à Dieu? Et voilà, c'est est-ce que j'ai conscience que mon frère, il remet aussi ses journées, ses actes au Seigneur?
Que ton frère aime le Seigneur. Et sinon, si j'ai une autre attitude, c'est qu'a priori, je pense qu'il est potentiellement infidèle. Et ça, c'est un état de cœur de celui qui pense ça qui est mauvais. Hein. C'est imputer le mal. Et un peu plus loin dans le passage, il est question de marcher selon l'amour. Et quand on regarde l'enseignement de l'amour, ce qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13, l'amour n'impute pas le mal.
J'ai fait une lecture un petit peu personnelle, vous me direz, mais du premier verset du chapitre 15. Nous devons, nous les forts, porter les infirmités. Il me semble voir dans cette expression une pointe d'ironie de la part de l'apôtre. Vous vous prenez pour des gens qui ont une conscience équilibrée, vous croyez vous êtes fort, vous pouvez tout supporter, eh bien, portez les infirmités des faibles. C'est-à-dire, les aider à porter un fardeau. C'est vraiment, quand quelqu'un est en train de porter quelque chose de lourd, je l'aide à porter ce fardeau. Et le frère qui est faible, par exemple parce qu'il est légaliste, je vais l'aider à porter ce fardeau. Je vais l'aider à l'en soulager. Et non pas s'appeler jusqu'au mépris, hein, on est passé sur ce verset 3 vite, le mépris. Vous vous rendez compte? Je peux arriver à mépriser mon frère, c'est-à-dire vraiment le condamner comme s'il ne valait rien. Tu ne vaux rien. Le mépris, c'est ça. C'est tu ne vaux rien. Je le considère. Il n'inspire pour moi que dédain, que dégoût. C'est ça le mépris. Ça peut aller très très loin dans le fait de juger, c'est de mépriser, de considérer que l'autre ne vaut rien. Et Juste encore une chose, on a donc parlé sur le régime et sur les jours. Et il me semble que là, c'est deux exemples que l'apôtre donne. Qu'il y en a d'autres, on en a évoqué d'autres tout à l'heure, on parlait de l'arbre de Noël, on parlait de, il y a quelques années, effectivement, on considérait mal de le dimanche soir de faire une autre activité qu'une activité spirituelle. Voilà, c'est des choses qu'on a pu vivre. On parlait de déroulement de culte, Gérard tout à l'heure, différent. Je me rappelle, j'étais dans une assemblée cet été, et il y avait un frère qui était extrêmement choqué parce que le dimanche après-midi, il y a eu un cantique, et ensuite, tout de suite, le frère a médité. Il n'y a pas eu de prière entre les deux. Il était choqué. Il a fallu apaiser ce frère. Il a fallu... Mais ça, il était sincèrement choqué, et je crois que qu'il faut aider, il faut porter par des paroles qui viennent de Dieu, qu'il faut porter là les infirmités des plus faibles. Et puis, en parlant de... Mais peut-être aussi sans légiférer sur la question de l'habillement, sur le port de la cravate, sur le pantalon des sœurs. Parlons, pas forcément pour donner une réponse à tout, parce que là aussi on a des opinions différentes. Mais voilà des exemples concrets qui pourront peut-être être pris aussi sur ce sujet.
Pour détendre un peu, il y a quelques années, on n'était pas tendu. Une de mes filles est allée faire un stage en Allemagne. Et elle était très très bien reçue dans une famille. Il y avait un frère et une sœur qui avaient un appartement, une chambre, qui était un peu de l'âge de mes beaux-parents. Et puis, quand elle allait au travail, elle partait en jean. Alors c'était un peu tôt, il y a quelques années. Et la sœur dit, en Allemagne, zone très stricte, ton père parle dans l'assemblée et il te laisse aller en pantalon. Et le soir, il disait, tu viens avec nous dans le salon, on va passer la soirée. Alors imaginez, des personnes de l'âge de mes beaux-parents, vous les connaissez. Alors ils étaient là dans le salon, le monsieur il avait un gros cigare, et il avait sa chope de bière dans la main droite. Et la dame, elle buvait son petit verre de vin. Je n'imagine pas mes beaux-parents comme ça. Et c'est, enfin, c'est un petit exemple, c'est au niveau de nos conceptions. Moi, c'est vrai que si je vois un frère fumer, ça ne me plaît pas, et pas simplement à cause du cancer. Mais je sais que si je vais au Congo, et si un frère me voit avec un verre de vin à la main, je vais le choquer. Et ce sont des choses où, il y a peut-être une chose qu'il faudra aborder tout à l'heure, non pas pour lui faire plaisir et que je sois bien vu, je vais pas faire, mais pour ne pas, par amour pour lui, je vais limiter ma liberté, non pas pour être bien vu, je répète, mais pour que nous progressions ensemble.
L'idéal, ça aurait été que ta fille se mette en robe à partir. Alors là, elle aurait joué le rôle de la forte.
Excusez-moi, mais je n'ai pas dit toute l'histoire. Je n'ai pas dit toute l'histoire. Et de notre côté, comment dire, c'est simplement une anecdote.
Peut-être je voudrais dire, c'est que, suite à ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai que les églises, d'une façon générale, par rapport à la société civile, apparaissent très conservatrices. Nous suivons avec beaucoup de recul les évolutions, mais les évolutions sociales, elles sont là, et le pantalon maintenant est totalement banalisé, et moi étant professeur, je préférais voir une fille en pantalon plutôt qu'une fille en mini-jupe. Je trouvais qu'il y avait plus de décence. Maintenant, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, et c'est très juste, c'est le sentiment de crainte, de peur. Nous pensons que si les choses changent, évoluent, eh bien tout va disparaître dans nos milieux, que va devenir l'assemblée, que vont devenir les principes du rassemblement. Je pense qu'il y a là un sentiment qui est très naturel, bien sûr, surtout perçue par les personnes âgées qui ont vu cette évolution quand même assez considérable, mais il y a là aussi un manque de confiance. Faisons confiance aux jeunes. Vous savez, moi je vais vous dire que les jeunes que je vois actuellement sont beaucoup plus engagés que ce que je l'étais et que ce que je voyais autour de moi à Paris. Beaucoup plus consacrés, beaucoup plus dévoués pour le Seigneur, sous une forme ou sous une autre. Alors, n'ayons pas peur, ne craignons pas, même si les jeunes peuvent faire des choses qui nous surprennent au niveau musical ou autre, faisons confiance au Seigneur. Et je crois que c'est un petit peu le raisonnement que Paul tient dans ce chapitre 14. Faites confiance au Seigneur. Il y a des problèmes, vous risquez de vous heurter, de vous blesser mutuellement. Regardez au Seigneur, ayez confiance, l'avenir vous montrera où est le chemin.
Bon voilà, l'heure est là. On a parlé d'être choqué. J'espère que vous n'avez pas été choqué par le fait que, justement, contrairement à l'habitude, nous n'avons pas de chanter de cantique en commençant ces instants-là. Alors, je vous propose d'en chanter une partie d'un maintenant, le cantique 229, les versets 1, 4 et 5.